Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, sur France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour partager ensemble ce dernier service protestant de l'année 2020. Et pour ce faire, je serai avec Vincent Smetana, artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. Bonjour Vincent Smetana.
Bonjour.
Depuis plusieurs semaines, nous avons eu l'occasion et le plaisir de vous découvrir en ouverture du service protestant. Alors j'avais envie ce matin, avant de vous écouter encore nous partager un petit quelque chose supplémentaire, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur vous. Je vous présente comme artiste et comme secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique. D'ailleurs, étonnant finalement cet assemblage.
C'est assez étonnant, ça m'a étonné moi-même d'ailleurs, pour dire la vérité. C'est-à-dire que quand cette opportunité s'est présentée, ça m'a surpris parce que ça ne me semblait pas compatible. Mais j'ai appris à comprendre, alors à la fois que c'est un vrai choix, chaque société biblique, hein, il y a près de 200 sociétés bibliques dans le monde qui font partie de cette grande famille de l'Alliance biblique universelle, l'intention, petit à petit, aujourd'hui particulièrement en 2020, c'est de se dire que le profil de la personne qui va diriger le projet d'une société biblique a tout à gagner si justement il est peut-être alternatif, qu'il est différent, qu'il apporte quelque chose de différent. Moi je me suis dit, si c'est le désir là de m'offrir cette opportunité, ce sera aussi l'occasion de se dire, j'arrive avec en effet des outils différents et peut-être cette envie de se dire qu'est-ce que ça peut donner, mais dans le vrai sens de rejoindre la mission d'une façon différente peut-être.
Et la Bible donc, c'est un livre qui vous passionne personnellement ?
Tout à fait, c'est un bouquin qui m'a bouleversé dans son immensité, quoi. C'est un bouquin d'aventure, c'est un bouquin de philo, c'est de la poésie rare, c'est un bouquin d'émerveillement complet. C'est une espèce de bibliothèque dans laquelle je reste souvent assis, émerveillé. J'ai aimé le bouquin, et celui-là, pour le coup, c'est un bouquin qui me passionne énormément. Ouais.
C'est intéressant d'entendre parler de la Bible en parlant d'un bouquin. Peut-être que certains de nos auditeurs vont être surpris par le terme « bouquin
». C'est un bouquin. Moi, j'ai envie de dire, voyons-le comme c'est un objet. Moi, tous les jours, je vois, ce sont des objets qui sont rangés sur des rayons. Mais dire un bouquin, c'est une vraie belle chose. C'est un livre d'affection, c'est un livre qu'on a envie de garder près de soi.
Et puis, alors, derrière ce terme « artiste » que j'utilisais aussi, il y a plusieurs casquettes, chanteur, musicien, poète, auteur, comédien, photographe. On s'arrête là
On peut s'arrêter là, c'est déjà bien. D'ailleurs, c'est un petit peu embarrassant de dire oh là là tout ça, mais ça fait partie d'une même chose, je pense. C'est une aptitude à être au monde, c'est une façon de regarder les choses, les gens, le vivant autour de moi, et d'essayer de le formuler avec un langage qui peut bouger. Ça peut être choisir des mots, ça peut être choisir des sons, ça peut être avoir envie de partager. Un comédien qui monte en scène, c'est vraiment l'idée de dire je viens vers vous, puis j'ai envie de partager un moment avec vous, un truc fort, un truc qui va s'échanger. J'ai toujours avec moi des choses, que ce soit pour écrire, pour regarder, pour dire tout haut, écrire un texte dans la voiture en le disant tout haut, par exemple, s'arrêter brutalement le long d'un chemin pour prendre la photo de quelque chose qui passe. Cet émerveillement ordinaire de la chose qui se présente à nous sans cesse. Après, c'est juste une question de langage. Quel est le langage que je vais choisir maintenant? Si je vois un truc qui m'émerveille au bord du chemin, est-ce que j'en prends une photo? Est-ce que j'écris des mots? Est-ce que je sors de la voiture et que je déclame un texte? Je ne sais pas. Toute chose qui permettrait de dire l'émerveillement.
Alors, j'ai découvert sur le net, en cherchant un peu, ce teaser, comme on dit, une bande-annonce qui présente l'un de vos spectacles très à table. Une sorte de one-man show pictural. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Je ne sais pas si l'on peut dire ça. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'écouter un extrait de ce teaser et puis on en reparle juste derrière.
Évidemment, c'est pas juste un repas, il s'agit pas de juste un repas. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que le peintre a vu, lui, quand il a essayé de reproduire cet instant, de montrer cet instant. Je me dis qu'il y a certainement quelque chose qu'il a dû sonder en lui-même, chercher ce qui pouvait le toucher pour concentrer sur cette seule image toute l'intensité de ce moment que Jésus passe avec ses amis autour d'une table.
À Alors, ça n'est qu'un extrait de ce teaser. Vincent Smetana, quelques mots peut-être sur ce spectacle?
Mais justement, c'était l'envie de se dire... Alors, on parlait de la Bible comme un bouquin. J'aime bien ramener les choses, les changer de focale, de ne pas en faire un... des choses graves, mais de les ramener sur le concret du quotidien. Je pense que la Bible est un bouquin, justement, qui nous invite profondément à revenir sur le quotidien. Du coup, en décalant la focale, on observe des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Je pense que le malheur, le drame, en tout cas, c'est de lire la Bible en lisant ce qui est écrit et point. Or, il y a une infinité de choses vivantes entre ce qui est dit et la perception qu'on en a. Justement, alors ce projet-là, c'était justement monter sur le plateau, de monter en scène, de dire voilà, on va observer une toile, par exemple, en l'occurrence, c'est le souper, le 13 à table, le dernier souper, et de se dire mais regardons ce qu'on voit, qu'est-ce que le peintre veut dire, qu'est-ce qu'il veut montrer. Je pense que les peintres ont ce vrai talent d'arrêter la séquence sur un instant précis pour dire est-ce que vous voyez ce que je vois, est-ce que vous voyez ce qu'on peut voir ensemble. C'est l'idée d'avoir une toile comme support majeur et de se dire allez, on va la regarder pendant une heure cette toile et on va regarder mais alors tout, est-ce qu'on voit un chat, une fourchette, un visage, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le choix du peintre, le trait, la couleur, tout ça participe à construire en nous cette chose prodigieuse, c'est d'avoir la séquence biblique qu'on connaît mais d'en décaler complètement la focale pour laisser agir en nous la pulsation du vivant dans la parole.
Eh bien, le temps file et je vous propose d'avancer en rappelant, Vincent, que votre chronique qui nous a tenus en haleine pendant ces 5 derniers services protestants s'appelait « Avant, pendant et après ». Alors, on en est où précisément aujourd'hui? Où allons-nous donc vous retrouver ce matin? Mais avec en même temps autre chose qu'une chronique de 5 minutes.
En fait, on est toujours dans la queue de comète du passage de Noël, de la fin de l'avant, proche de l'après, de l'avant, et en même temps qu'on s'en éloigne déjà. Je devrais probablement parler de tout ça encore, tant c'est beau, tant ça vaut, tant ça donne sens. Un petit gars couché dans la paille, qui en vrai n'est pas un petit gars, mais le grand beau gars qu'il deviendra. Et on pourrait s'attarder encore longtemps sur ce récit, et on aurait bien du plaisir, de la joie. Pourquoi? Mais simplement parce que chaque fois qu'on pose vraiment les yeux sur une séquence biblique, on voit que la réalité que Dieu donne à vivre en échappant complètement à notre contrôle ou notre raison raisonnée, cette réalité si belle et si dense, vient percuter notre perception du vivant au travers de l'expérience domestique. La révélation d'une évidente profondeur de la foi, pour moi, s'épanouit dans des choses simplissimes. Le repos, le sommeil, un verre d'eau, un talus et des buissons, une table, du pain rompu, des poissons grillés sur une plage, un mariage, une discussion de bord de fenêtre à la nuit tombée, une conversation dans une ruelle, un verre de vin, un enfant qui dort dans la paille, un drap, un vêtement de lin, une chaise, un bol, un sac de blé, une bougie, un couteau. Rassurez-vous, Jean-Luc, je vais arrêter cette liste de courses, c'est pas le moment ni le lieu, franchement, alliez-vous me dire. Mais c'est juste pour dire à quel point notre réalité est le territoire constant de la révélation. Notre vie domestique s'illumine de cette contradiction magnifique. Si on ne peut comprendre la réalité de Dieu de manière terrestre, on peut infiniment, goulûment, splendidement l'apprivoiser par le biais de l'intuition de notre foi, c'est-à-dire ce qui nous rend sentinelles et vigilants sur l'infime de chaque jour, ce qu'on sent, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce que j'aime appeler l'enchantement simple d'un émerveillement ordinaire. J'imagine votre inquiétude, Jean-Luc, de me voir tracer là des circonvolutions autour du panier de la ménagère pour prétendre y toucher l'éblouissement de la foi, c'est ça, hein?
Exactement, c'est vrai que je tiens le fil, enfin j'essaye, et je vous suis, Vincent, et je ne suis pas inquiet qu'on parle de la vie domestique. Elle nous tient d'ailleurs tellement en éveil dans ces temps où le confinement devient une sorte de refrain, pas forcément très agréable, je l'avoue, mais bien là en tout cas. Mais pour être honnête, donc, je pense aussi à la question que je me posais et que je vous posais pour préparer cette émission. Qu'en est-il de cette année écoulée? Et vous qui avez réalisé un spectacle à partir d'œuvres d'art, justement, donc, quelle peinture on en ferait si on devait lui donner un visage?
Eh bien, quand je regarde l'année pourrie qui vient de s'écouler, je sais, je ne devrais pas dire pourrie, c'est un peu comme un gros mot, et certains me disent que c'est une façon de dénigrer, c'est pas bien. Mais quand même, pardon, mais pourrie veut dire altéré, défait, décomposé, désagrégé, oui, et qui ose dire le contraire, c'est une année qui a pulvériser nos certitudes, qui a affaibli notre constance, qui a entamé la sérénité de notre intuition, qui nous a plongé chacun, qui plus, qui moins, dans une brèche béante et brutale de confusion et de désillusion. Et là, je dirais, tant mieux. Ah, là, vous avez loupé une occasion de m'interrompre, Jean-Luc, c'est trop tard. Mais parce que franchement, quand même, comment je peux oser dire tant mieux.
Mais oui, bien sûr. J'allais le dire, et laissez-moi le dire. Et d'ailleurs, je vais le dire franchement, comment pouvez-vous dire tant mieux quand vous regardez cette année violente et bouleversante dont on n'a d'ailleurs pas encore fini de se relever?
Est-ce qu'on a même commencé à se relever, en fait? On est sonné, en vrai. Mais je dis tant mieux, parce que si on ralentit sur la puissance de l'intention de Dieu pour notre vie, on constate quoi? Chaque fois que s'y pose ce qui nous déroute, nous dérange, nous réveille, nous chahute, nous inconforte, chaque fois que nos nuits sont secouées par la tempête de l'inquiétude, de l'épreuve ou du doute, on a l'opportunité géante de grandir, de bouger, de changer, de nourrir notre aptitude à être au monde, de goûter pleinement à la réalité du vivant. Et ça, en vérité, c'est la source pleine de ces deux clés fondamentales qui articulent notre choix de foi, le mouvement et la joie, à l'exact opposé de l'inertie et de la plainte. Alors, je voudrais proposer une expérience, là maintenant, qui va consister à observer une peinture, un tableau, une toile, à regarder ensemble justement ce qui la compose, ce qu'elle nous raconte, les objets, les lignes de fuite, les couleurs, le mouvement dans le trait du peintre, l'intention du regard, les choix, le sens, l'invitation.
Mais attendez, vous voulez dire quoi? Vous nous proposez là maintenant de regarder tout de suite une toile, mais nous sommes en même temps à la radio sur France Culture. Vous n'avez pas oublié, non?
C'est très drôle, Jean-Luc, mais non, pas du tout. Au contraire, c'est trop bien, l'imaginaire de notre cœur intérieur.
On fait comment,
c'est
alors?
C'est une des plus belles matières de la résilience. Donc, les marcheurs d'Emmaüs, ce sont eux que je vous invite à observer. Alors là, bravo, parler de Pâques à Noël, vraiment. Alors là, vraiment, Vincent, franchement, c'est n'importe quoi.
Un peu quand même, non?
Non. Oui, non, parce que je vous rappelle que j'ai annoncé dès le départ que je n'allais pas parler de Noël, mais de quelque chose qui tisse le sentiment de l'année écoulée, quelque chose que le visage de cette année très étrange et très malaisante est venu chatouiller au cœur de notre foi. Et ça me fait penser à une question que je voudrais poser parce que je me la suis posée. Et là, je vais vous la poser. Oui ou non? Avons-nous fait cette année, d'une façon ou d'une autre, l'expérience de la désillusion? Oui ou non? Y a-t-il quelque chose de cette année qui est venu défaire nos certitudes ou remplir nos cœurs et nos pensées d'un sentiment confus que quelque chose nous a déçus quand même ou rendus errants, tristounets et hagards? Probablement, et probablement parce que notre attente, ce qu'est la vie, a été déçu, voilà.
Notre attente de ce qu'est la vie, c'est une vaste question. Ça pourrait être tout à fait un sujet de philo au bac.
Pas faux, mais quand même, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Notre attente de ce qui est comme on le conçoit a été abîmée, giflée, malmenée, explosée peut-être même, et nous voilà perdus, même un peu, parce que ce que nous attendons a été déçu. Ce que nous attendons, c'est-à-dire un but, une réponse, un sens, un épanouissement, quoi que ce soit, comme l'Avent par exemple, on l'a vécu ces quelques semaines, l'Avent c'est l'attente d'une révélation joyeuse, alors donc qu'est-ce que l'attente? C'est en tout cas rarement un état simple, incertitude, désir, crainte, impatience, colère, ennui s'y succèdent et s'y mêlent.
Oui, mais ces états ne sont pas l'attente elle-même, ils ne sont que le revêtement dont elle serait la trame, avec donc cette idée que les uns ou les autres sont presque toujours présents, visibles, et puis facilement saisissables.
Exactement, et c'est justement pour ça qu'on peut dire que l'incertitude existe à quelques degrés dans toute attente. Elle est inquiétante dans les attentes vagues où toutes sortes de possibilités se bousculent et se disputent dans nos têtes, et où nous connaissons à peine la nature et le terme de ce qui nous attend. Elle est plus précise et plus cruelle dans les attentes innombrables où on se pose perpétuellement une question à laquelle l'événement répond oui ou non. Elle n'est pas même absente de l'attente du certain et de l'inévitable, si assuré que soit l'avenir. Il n'est pas présent, il n'est pas donné. Et puis le temps qui doit l'amener a beau être fixé d'avance, nous prévoyons des anticipations ou des retards. Et enfin, même connu dans son ensemble, il laisse place dans le détail à l'indéterminable, à l'inattendu. Et ça, c'est pour nous, humains, impatients que nous sommes, ça c'est carrément insupportable des fois.
Sauf que la frustration crée la contrainte et la quête. Et en créant la quête, l'incertitude crée du même coup l'attente de la solution qui souvent ne vient pas comme on l'imagine. D'ailleurs, dans le récit que vous avez choisi, le roi annoncé devait être roi et pas battu, molesté et même carrément crucifié. Donc voilà. In fine, quand notre attente est déçue, cet épisode de frustration ou de déception, ou même les deux à la fois parfois, eh bien, alors, il nous enlèverait quoi?
Deux choses en tout cas, le mouvement et la joie. Car c'est là qu'en tout, nous sommes comme ces deux gars. Et au final, c'est pas un mal, c'est un point de départ inédit pour ralentir, réfléchir et nourrir en nous quelque chose de nouveau. Luc 24, 13 à 35. Et voici que deux d'entre eux vont ce même jour d'ici à là-bas. En marchant, ils s'entretiennent et discutent de tout ce qui est arrivé. Vous me considérez au moins ça, Jean-Luc, le truc salvateur, le moment nourricier quand quelque chose nous a touché, brutalisé, dérouté ou déçu, c'est parler. Et ici, ces deux-là, ils font encore mieux, ils parlent en marchant, ils sont pile dans le cœur de cette réalité splendide, le mouvement de la parole, le mouvement qu'induit la parole, le cheminement, le déplacement d'un point à un autre dans notre pensée, nos émotions, notre façon de percevoir le monde. Il n'y a pas de vie de foi sans l'idée du mouvement. La vie n'est pas une inertie cimentée dans l'absolu de nos certitudes ou de nos acquis, non. La foi nous pousse à sortir du bois. Le jeune théologien dominicain Dominique Collin dit joliment ceci, l'idée du chemin, c'est la première clé stylistique de l'écriture parabolique de nos vies. Cette figure métaphorique nous invite à mettre des mots sur ce qui traverse nos existences, ce qui nous met aujourd'hui en mouvement, nous déplace, nous invite au voyage de notre vie, tout ce qui va consister à faire attention à l'impasse, au mur, à l'échec, à l'absence d'horizon, à la fermeture du sens et de l'intelligence. Et ça demande juste de nous une qualité du regard qui fait voir le brin d'herbe qui pousse entre deux blocs de béton, ou voir une graine qui germe et qu'on croyait gaspillée. En s'approchant d'un mur, il dit, on y trouvera à coup sûr un trou, une faille, une ouverture, et donc un appel à traverser, à avancer, à se relancer dans la vie. Alors oui, comme ces deux gars l'ont appris au final, raconter, observer, se dire, partager, être en relation, c'est ouvrir une brèche dans l'opacité de la vie et du monde. Le langage de Jésus fonctionne d'ailleurs toujours comme un voyage, en façonnant une ouverture, une porte vers notre réalité domestique qui va agir en nous comme une vraie mise en mouvement.
Si nous sommes attentifs, évidemment.
Ah oui, mais ça oui, si nous sommes attentifs. Mais une séquence biblique parabolique, c'est ça, c'est rien d'autre. Déplacer le lecteur, le mettre en mouvement, l'inviter au déplacement de la pensée en réouvrant l'horizon de l'espérance, de l'imaginaire et de la joie. C'est exactement ce que fait le langage de la poésie, by the way. Mais bon, ok, c'est pas le sujet ici.
Et puisque ce n'est pas le sujet, l'occasion m'est donnée, je vous propose une pause musicale. Nous continuerons d'ailleurs par là même à mieux vous découvrir, Vincent Smetana. Et c'est en chanson, tout de suite, avec le titre « J'attends ».
J'attends ici que tu changes ma vie. Quand le feu me manque, c'est ton souffle qui m'épanouit.
Vous écoutez le service protestant sur France Culture avec Vincent Smetana, qui est mon invité. Alors, où en étions-nous dans le regard sur cette peinture, ces fameux pèlerins d'Emmaüs ?
Oui, donc alors, la table d'Emmaüs, revenons à ça. Je ne vais pas lire tout le passage de Luc, mais je capte juste les versets 13 et 14. Ils s'entretiennent, ils discutent, et c'est alors que Jésus s'approche, Jésus en personne, nous dit le texte. Verset 17, ils sont consternés, dépités. Verset 18, ils lui disent quoi, mais comment, tu comprends rien? Et verset 21, nous espérions, et voilà le drame, nous espérions, ils disent. Quelque chose s'est cassé en eux, sûr, leur cœur est tout éteint, ralenti, mou, défait. Et ce qui va les remettre en mouvement, c'est lui, Jésus, lui quand il parle de lui, quand il parle de tout ce qui est, quand il se met à table littéralement et qu'il se donne à nouveau ce pain, ce vin, cette nourriture nourricière prodigieuse qui va leur rendre le mouvement, la joie et donc la vie. Verset 33, tout à cette joie immense, il se lève sur l'heure, aussitôt, tout de suite, au moment même, selon les traductions, et c'est là que le peintre nous pose là, à la table d'Emmaüs, pile au verset 33.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par la table d'Emmaüs ? C'est la toile dont vous parliez tout à l'heure.
C'est ça, j'y suis. La table d'Emmaüs est une toile de l'artiste français Arcabas, peintre et sculpteur, disparu il y a 2 ans, et qui laisse la trace fascinante d'une façon de voir l'intime d'une beauté réfléchie, ou comme le dit un commentaire sur Pinterest, quelque chose dans son trait nous éloigne de la solitude en nous rendant participants à son regard. Alors voilà comment elle pourrait être décrite, cette toile, si on ferme les yeux un instant et qu'on se met à l'écoute de ce que les mots mobilisent en nous. On y va ?
Allons-y, on vous suit.
Alors, cette toile dépeint une séquence sans personnage, juste une table. Pour moi, c'est l'instant pile du verset 33, le moment entre la virgule qui suit le début du verset et la suite du verset, comme si nous, on était restés là. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est cet instant, l'instant même où l'attente déçue s'est transformée en joie. L'instant précis où cette joie intense a induit un mouvement vital.
Bon alors, désolé, je vais être très terre à terre. On voit quoi alors si les deux ne sont plus là ?
Juste question, on voit ce qui à première vue ne se voit pas dans le texte. Et c'est ça tout l'intérêt. Comme si le peintre disait, stop, qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Ok, ils sont sortis, la porte est ouverte, tout est sans dessus-dessous, on voit juste une table, une simple table, elle barre le tableau, elle le coupe en deux parts, comme ça. C'est la ligne horizontale de nos vies, c'est la table où se répètent nos repas quotidiens, point.
La table banale donc, si je vous comprends bien, celle de nos conversations, de nos soupers, de nos partages, c'est ça ?
Exactement ça, cette chose simple, magnifiquement ordinaire, la table où l'on est profondément en relation avec le vivant, le regard, la faim, la soif, les sens, la parole ou même le silence. Mais étrangement cependant, la stabilité de cette table dressée semble comme flotter. À droite, la partie de la nappe qui a été soulevée ne nous révèle aucun pied, tel un plongeoir dressé pour le saut. Tout dans cette scène nous indique le mouvement, la chaise renversée en bas à gauche avec sa serviette délaissée, le mouvement imprimé dans la nappe avec cette autre serviette abandonnée dans la hâte de l'urgence, et la porte ouverte sur la nuit étoilée. La couleur de la nappe porte elle-même la dynamique de ce passage. À gauche, le jaune des repas de fête se change progressivement vers la droite en un gris de linceul. Cette table, hein, c'est la table de notre existence, c'est la table de la vie et de la mort, la permanence du temps qui se répète. Tout semble donc immobile, banal, et pourtant tout vibre d'un fort mouvement.
Et puis alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? D'ailleurs, voit-on autre chose ?
Oui, il y a ces objets qui sont sur la table. Trois assiettes, trois coupes, une cruche, une bouteille, une soupière et des couverts. Comme dans ces tableaux de nature morte, l'artiste présente tous les éléments du repas, mais singulièrement, il n'y a aucun signe de nourriture. Pas de traces de restes de repas, ou de pain, ou de dinde aux érelles, ou de bûche au marron. Non, il n'y a rien. Le peintre a choisi de ne présenter que des objets. Et ces objets, comme la table, portent eux aussi la trace du passage du Christ. Ils sont arrosés de lumière, ils rayonnent de ce doré qui illumine la gorge du tableau. Le bougeoir qui devrait briller de ces trois flammes est éteint. La lumière vient des objets eux-mêmes, de ces objets que l'homme a fabriqués de ses propres mains. Ce qui pouvait n'être qu'une nature morte, la nature morte de l'absence de Dieu par exemple, de son silence, nous présente au contraire la création vivante. Il ne s'agit pas simplement de la beauté de la nature, du ciel étoilé, c'est notre vie, c'est ce que l'homme a lui-même produit qui révèle le rayonnement de la présence de Dieu. Pour qui ose ce choix de croire, l'incarnation du Christ est venue bouleverser notre rapport au monde, cette toile dans son langage. Elle donne à voir un horizon de sens et de liberté qui, à nouveau, part d'une réalité domestique. Il faut prendre le temps de regarder les autres toiles d'Arcabas sur la même séquence d'Emmaüs. C'est beau, de simplicité nue, ces deux gars à table, accoudés, bavardant, verre de vin à la main. On les voit presque tourner la fourchette dans leur assiette de spaghettis. C'est hyper sympa, ce souper inouï avec Jésus en personne, nous dit Luc. Une vraie belle réalité qui le repositionne sur le territoire du vivant. On les regarde et on sent ces deux pôles vibrants se réveiller en eux dans la simplicité, dans l'intuition, dans la splendeur de la foi, ravivée par ces deux choses, ces deux battements de cœur, le mouvement et la joie.
Et vous diriez quoi alors ? C'est cette joie immense, brutale, énorme, qui fait qu'ils se sont levés pour tout laisser là, littéralement ?
Ah, pour moi, oui, c'est pas moins que ça. C'est ça qu'on voit, les chaises sont renversées. La déception, leur déception, elle est restée là, chiffonnée, grise, inutile, à l'image de la nappe, qui forme sur le coin inférieur droit de la toile un étrange contour en forme de pièce de puzzle. Alors on dirait oui, il leur manquait un truc fondamental. Oui, ils se sentaient vides et vains. Leur espérance avait été brutalisée par la désillusion, la déception, la lassitude aussi. En tout, il leur manquait ce qui si souvent nous échappe, ça, le mouvement et la joie. Comment on va faire pour sortir de cette année indemne ? No way, on n'en sortira pas indemne, mais on peut choisir d'en sortir, changer, et d'en goûter tout l'étrange et le troublant, comme une épice nouvelle dans une recette de poisson mariné, tout le goût de cette parole qui nous traverse de part en part, verset 26, n'était-il pas nécessaire d'endurer tout ça? Est-ce que c'est pas déjà même un peu pour s'approcher de la vraie vie à laquelle Dieu nous invite? Apprivoisez votre réalité, dit-il. Approchez-vous de vous, de qui vous êtes, de votre contexte, de vos émotions, de la nature de votre foi telle qu'elle est.
Une question, de quoi s'agit-il alors? Vous m'arrêtez si je me trompe, mais serait-ce quelque chose genre « il est bon que vous soyez déçus » écrirait-il en sous-titre, que les images que vous vous faites de vous-même et de moi soient détruites parce que là, et là seulement, vous entrez dans le mouvement de la foi, de son but, de son sens, de sa joie?
C'est carrément ça, ce Jésus ressuscité qui partage un spaghetti avec deux types dépités, c'est pile à l'image de ce qui peut nous arriver de mieux, de lui qui est là, et qui nous mène de l'ombre à la lumière, de l'inertie au mouvement, de ce qui s'est figé en nous vers la liberté, de la cécité à la vision, de l'immobile au mobile, de la règle à l'amour. On n'a rien à gagner à miauler, parce que oui, alors comme ces deux gars, des fois, il faut se dire qu'il est bon quand le poids des choses nous fait plier, ou il nous fait tomber sur les rotules, il est bon de prendre le temps, d'accuser le coup, mais littéralement, quoi. Oui, cette année a été compliquée, brutalisante, déroutante. Oui, on a marché sur un fil d'effroi et c'est pas fini. Mais ça, on peut le toucher. C'est la pulsation de notre foi. Rester dans la relation au réel, y poser une parole vraie, un langage doux et invitant, prendre une petite pelle et un petit saut là, dans un petit filet de plage pour s'attaquer à notre montagne d'inquiétude et se mettre à faire la place au-dedans de nous pour l'immense et le nouveau. Et ça s'appellerait persévérance, et ça s'appellerait patience, ça s'appellerait résilience, ça s'appellerait constance ou abondance. Et ça nous mettrait à nouveau en mouvement, et ça inonderait nos cœurs de joie, ça les vitaliserait de joie, ça les tapisserait de joie et d'espérance, ça s'appellerait naissance. Naissance non féminin, commencement de la vie indépendante pour un être vivant, mis au monde, élan d'origine, sentiment de venir à la vie en vrai, être rempli de ça, surpris et sans fin ébloui. Voilà, s'approcher de ce jour nouveau, tout nouveau, de naître à nouveau, pour enfin apprendre à être. Et non, Jean-Luc, je ne peux pas dire autre chose. Même si je voulais dire autre chose, je ne pourrais décemment pas. Alors oui, je vous préviens, je vais le dire. Allez, bonne année, quoi.
C'était votre service protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Anne-Laure Chenel et avec Anthony Thomasson à la prise de son. Nous étions avec Vincent Smetana, artiste et secrétaire général de la Société biblique francophone de Belgique, que je remercie chaleureusement pour avoir accepté de m'accompagner ces dernières semaines. Merci Vincent. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Elle est aussi disponible sur le site protestantaupluriel.org où vous pourrez télécharger également le texte du jour. Et si vous souhaitez enfin réagir, nous écrire une adresse, Service Protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris ou par courriel communication@fédérationprotestante.org. Je vous invite à rester à l'écoute de France Culture pour les informations puis l'émission talmudique et je vous souhaite enfin un bon dimanche en vous disant à l'année prochaine, même jour, même heure, même fréquence.